Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de ce programme de débat d'idées dans le cadre de Casse-Croûte. Alors je crois que c'est même un goûter d'idées, ça va bientôt être un apéro d'idées. Dans cette deuxième partie d'après-midi, nous allons parler littérature, récits européens, avec deux invités, Mathieu Roger-Lacan, de la revue Grand Continent. Grand Continent, c'est une revue transnationale en ligne qui existe depuis 2019, qui a été créée par le groupe d'études géopolitiques de l'ENS, École Normale Supérieure à Paris. Artifarti, qui organise Casse-Croûte, qui est une association culturelle lyonnaise, organise aussi d'autres événements, dont des forums européens, lors desquels nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir la rédaction de Grand Continent. C'était notamment le cas en mai dernier, à l'occasion du forum European Lab, pour mettre en perspective les bouleversements géopolitiques européens, notamment consécutifs à la guerre en Ukraine. On avait accueilli notamment Gilles Gressani, qui est à l'origine de Grand Continent, en discussion avec Raphaël Glucksmann. Donc il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques qui sont évoqués dans cette revue transnationale. Peut-être, Mathieu, tu pourras l'expliquer. Il y a une vraie organisation qui fait que la rédaction est vraiment européenne, multipolaire. Polycentrique, je ne sais pas comment on peut le dire. Bien sûr, la littérature n'est pas absente de cette revue, loin de là, puisqu'il y a beaucoup de grands auteurs, autrices, qui ont été interviewés, qui le sont régulièrement dans les colonnes de Grand Continent. Il y a aussi une rubrique dont moi je suis assez fan, qui permet de mettre en lumière la production éditoriale européenne et notamment celle à laquelle on n'a pas accès puisque pas encore traduite en français. Donc dans cette même dynamique, la revue Grand Continent a eu l'initiative de créer un prix littéraire européen et de le décerner, qui plus est, sur le Mont Blanc, enfin pas tout à fait en haut, mais pas loin du sommet, et sur le versant italien, donc en Vallée d'Aoste. Donc Mathieu, si tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a... Alors Pascal Landru est avec nous. Pascal Landru qui est... Oui, Pascal Farge de la librairie Landru, qui anime la librairie, une librairie presque centenaire. Donc une institution à Chamonix qui est partenaire du festival Casse-Croûte. Donc c'est aussi un des éléments de programmation du festival, puisqu'à la maison MC2 et de temps en temps ici à la maison des artistes, Pascal Farge et je pense ses équipes nous ont préparé une sélection d'ouvrages à la fois sur la montagne, tu nous en parleras aussi, sur la cuisine, sur tous les sujets que nous évoquons dans le cadre de ce festival. Et tu pourras, Pascal, aussi détailler un petit peu ou mettre en avant un certain nombre de coups de cœur et réagir peut-être aussi à ce que nous explique Mathieu Roger-Lacan. Donc, je reviens à toi, Mathieu. Qu'est-ce qui a présidé, en fait, à la création de ce prix ? Pourquoi est-ce que vous avez eu l'envie de décerner un prix à un grand récit européen et de le faire précisément dans cette région de la vallée de Chamonix ?
Merci infiniment pour votre invitation. Il y a un peu deux questions en une. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait un nouveau prix littéraire alors qu'il en existe déjà tant ? Et la seconde, c'est pourquoi est-ce qu'on le mettrait sur le Mont Blanc ? La première, elle vient de la manière dont travaille notre revue en général. C'est-à-dire, on essaie d'adopter un point de vue, non pas qui parlerait d'Europe, mais qui adopte un regard européen sur le monde. De manière à essayer de produire un contenu dont la hiérarchie soit pas nationale, mais soit aussi intéressante pour un lecteur qui vivrait à Cracovie que pour une personne qui vivrait à Naples ou à Séville. Et partant de ce même principe, on essaye aussi de chroniquer l'actualité littéraire, non pas simplement dans chaque pays, enfin dans notre propre langue, par exemple le français pour nous, mais d'essayer de mettre en regard ce qu'on connaît de la production littéraire dans son propre pays avec ce qui paraît en temps réel dans les autres langues, avant même que ces textes soient traduits. Et justement, ça nous amène au cœur du projet de ce prix qui réunit 5 langues, hein, le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le polonais, et qui, pour chacune de ces langues, étudie une année entière de production littéraire, donc l'année qui vient de s'écouler, d'octobre à septembre, et essaye de passer au tamis tous les textes qui paraissent pour trouver d'excellents romans dans chacune de ces langues. Et au terme d'un processus de sélection et d'un choix par un jury, comme dans tous les prix, de soutenir la traduction et la diffusion de l'ouvrage qui l'emporte dans toutes ces autres langues. Imaginons que ce soit un ouvrage espagnol qui gagne. L'idée, c'est tout l'investissement du prix, toute sa dotation ne va pas à l'auteur comme sous la forme d'un chèque, mais sous la forme d'un investissement, d'une participation financière à la traduction en français, en italien, en allemand, en polonais, et d'une participation active à la diffusion de cet ouvrage. L'idée par là, c'est pas de dire qu'il y a des œuvres qui seraient essentiellement des romans plus européens que les autres, mais d'essayer de miser sur certains récits pour croire, faire le pari qu'ils seraient capables de rencontrer un public dans toutes les autres villes d'Europe, enfin dans les villes de ces 5 langues qui sont, j'allais dire c'est déjà beaucoup, c'est pas suffisant, mais dans les villes de ces 5 langues, d'essayer d'aller offrir un public européen à un roman, à un excellent roman chaque année. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait ça sur le Mont Blanc ? Alors, on ne fait pas exactement au sommet, on le fait dans un lieu qui s'appelle Skyway à Courmayeur, donc tout près d'ici. Enfin, il faut quand même traverser le plus haut sommet d'Europe pour y aller, mais enfin, c'est de l'autre côté de la montagne. À 3466 mètres d'altitude, 3466, c'est le nom du site du prix Grand Continent, si ça vous intéresse d'aller y voir. Le Mont Blanc, c'est, j'allais dire, on va peut-être en reparler, mais pour le dire très simplement, c'est un symbole qui prend un peu le contre-pied de l'imaginaire traditionnel des prix littéraires, notamment en France, qui sont souvent remis à Paris, d'une part, dans des restaurants, dans des salons, voilà, dans des lieux très importants de la sociabilité historique dans la littérature. Hein, les cafés ont compté, mais c'est un peu quelque chose qui se fait derrière des portes fermées. Et l'idée, au contraire, c'était de trouver un lieu public, un lieu qui soit au contraire un symbole presque opposé pour donner un autre élan à notre projet. Et puis, le Mont Blanc, c'est quelque part deux choses principales en termes de symboles. C'est le passé de l'Europe et c'est son avenir, quelque part. C'est un lieu qui est un symbole très important de la culture en Europe depuis la génération romantique, depuis Chateaubriand ou Germaine de Staël ou Hegel ou Goethe. C'est un lieu qui est un peu chargé de littérature, dans lequel on a placé beaucoup des imaginaires de l'Europe. Et c'est un lieu qui représente, à mon avis, assez bien l'avenir de l'Europe aussi, parce que c'est la discussion qui précédait a parlé de ça aussi, c'est un théâtre flagrant de l'urgence écologique. C'est un endroit où il est impossible d'ignorer la tragédie qui est en cours. Et voilà, monter jusqu'à 3466 mètres en prenant ce téléphérique à Skyway, c'est aussi voir à quel point le glacier recule chaque année. Et quelque part, ça montre que la littérature, enfin, en disant ça, je ne veux pas inutilement dramatiser mon propos. On essaye au contraire de montrer que la littérature, ça n'est pas seulement un enjeu décoratif, un enjeu qui est un plus par rapport à la vie, mais quelque chose qui peut être avant-gardiste dans nos manières de regarder le monde.
Alors, vous parliez de Chateaubriand. Peut-être que Pascal, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais en fait simplement amener mon soutien à ce prix, à cette initiative que je trouve absolument formidable. Et puis oui, quand on s'intéresse un petit peu à la littérature de montagne, effectivement, on se rend bien, vous en avez cité pas mal, il y avait aussi Victor Hugo, et puis il y avait aussi l'écrit de Saussure en 1786, qui était au Mont Blanc. Enfin, tout ça nous parle, évidemment. Et puis, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que effectivement, on peut partir de l'époque romantique, mais on se rend compte que finalement, ce Mont Blanc, il a toujours existé et il est toujours là. Et c'est peut-être ce qui fait le rayonnement de Chamonix et de l'Europe, enfin Courmayeur. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et, Et puis, on se rend compte que les années passent et que ce Mont Blanc, il est tout le temps là et qu'il intéresse tout le monde encore, et notamment les écrivains, pour d'autres choses. Alors maintenant, ça a évolué. Hein. Ça peut être aussi bien des bandes dessinées, ça peut être du roman, ça peut être du récit, le récit d'un exploit. Et à chaque fois, c'est toujours autour du Mont Blanc et on se rend compte que vraiment, c'est ce qui plaît. Et d'un point de vue de libraire, alors, quand même, celui qui plaît le plus du plus du plus et qui est indécrottable, c'est Premier de Cordée de Frison Roche. Alors lui, c'est le best-seller depuis des années.
Alors moi, je me suis plongée un petit peu dans les récits qui ont été inspirés par le Mont-Blanc et principalement à l'époque romantique. Puisque le Mont-Blanc a longtemps effectivement été l'image aussi du sublime, de l'inaccessible, du dépassement de soi, de la puissance de la nature. Donc il a inspiré de grandes envolées lyriques, notamment sous la plume de Victor Hugo.
Lamartine aussi, Lamartine, hein, qui a fait un poème qui s'appelle Le Mont-Blanc d'ailleurs.
Théophile Gautier. Mais il y a aussi un texte de Chateaubriand qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il détonne un peu dans le concert de louanges, ou en tout cas d'inspiration, puisqu'il compare, loin de voir, je cite, des diamants, des topazes, des émeraudes dans les glaciers. Chateaubriand voit de la cendre ou des carrières de chaux et de plâtre. Il est aussi très dur sur les habitants aussi de la vallée, enfin de Mont-Blanc, en disant qu'ils sont d'ailleurs accablés par le travail et très loin de l'image qu'on a de cette élévation, de cette transcendance. Donc on voit qu'il a suscité des sentiments contrastés dans la littérature. Mais beaucoup, principalement à l'époque romantique. Flaubert aussi se moque d'une certaine façon d'une vision du Mont-Blanc, puisque dans Madame Bovary, il présente un Léon ridicule, admirateur, un peu trop enthousiaste des montagnes suisses et de leur panorama touristique. Vous aviez tout ça en tête en choisissant aussi, parce que vous parlez de la force symbolique de ce monument naturel qu'est le Mont-Blanc.
Alors, on n'a jamais toute la littérature en tête. Heureusement, il faut quand même la découvrir toujours. Mais je pense que c'est les exemples que vous venez de lire sont particulièrement intéressants, parce qu'ils montrent, quand on dit que le Mont-Blanc a une force symbolique, quand on dit que c'est un endroit d'où ça vaut la peine de parler de littérature, parce que voilà, ça, déjà, c'est un lieu peut-être qui parle de lui-même, c'est pas pour esthétiser les choses inutilement. C'est pas pour dire le Mont-Blanc, c'est forcément formidable parce que c'est le Mont-Blanc. Il n'y a pas vraiment de raison à ça. C'est aussi pour réfléchir de façon un peu complexe, comme je le disais, à la façon dont c'est un symbole à différentes échelles qui dit différentes choses. Et aux phrases que vous avez citées, j'en rajouterai une de Michelet, de Jules Michelet, qui était un grand historien qu'on pourrait dire, sans faire trop d'anachronisme, écologiste aussi. Les livres de Michelet sur la mer, sur les insectes, sur la montagne, donc, le livre qui s'appelle La Montagne, sont des livres qui montrent aussi une immense préoccupation écologique, alors même que la tragédie n'était pas la même qu'aujourd'hui du tout, et qui dit, c'est sur le front du Mont-Blanc, plus ou moins chargé de glace, que se lie le destin, la fortune future de l'Europe. Et alors, on peut entendre cette phrase de plein de manières, mais il y a quelque chose qui m'y intéresse, en plus du fait qu'elle nous parle, évidemment, c'est l'idée, c'est cette petite expression, plus ou moins chargée de glace. Ça ne veut pas dire, à l'époque de Michelet, ça veut dire l'été ou l'hiver. Mais à notre époque, ça veut dire que la glace, c'est aussi quelque chose qui nous est plus garanti, parce qu'on l'a abîmée. Et quand je disais que c'était un symbole de l'avenir de l'Europe, en plus d'être, de fait, un symbole de son passé, je pense que le Mont-Blanc sert à la fois, disons, surtout pour y construire un prix comme celui-ci, pour y construire un projet sur les imaginaires en Europe aujourd'hui, le Mont-Blanc parle à la fois par sa solidité et par sa fragilité. C'est comme l'Europe. L'Europe, c'est quelque chose d'infiniment solide, c'est quelque chose qui nous protège de la guerre depuis 70 ans en Europe, dans un continent. Et je ne sais pas si elle nous en protégera encore longtemps, mais ça nous protège de faire la guerre entre des pays voisins. Ça nous protège de beaucoup de choses, mais c'est aussi un édifice incroyablement fragile. Les dernières années et les récentes élections de l'autre côté du Mont-Blanc aussi peuvent laisser présager de tendances inquiétantes du fait que c'est jamais acquis. Et quelque part, c'est un peu tout ça en fait qui se joue dans le Mont-Blanc. C'est pas juste l'idée du roc, de l'infini, de l'éternel. C'est au contraire le fait qu'on se rend compte qu'il y a de la fragilité dans les endroits qu'on pense être les plus solides. Et quelque part, on aimerait, on peut pas faire ça sur commande, mais on aimerait que le prix Grand Continent fasse émerger des littératures qui aient cette puissance-là, cette puissance ambivalente qui questionne et qui donne un cap à la fois.
Alors, on parlait des auteurs romantiques du 19e siècle. Il se trouve que c'est une période où le roman européen, d'ailleurs, était sans doute peut-être... Enfin, le roman, le grand roman, était sans doute un trait culturel commun, en fait, en Europe. Il y a un livre d'Emmanuel Loyer qui s'appelle « Une brève histoire culturelle de l'Europe » qui essaye, comme on a souvent essayé de le faire dans nos forums European Lab, d'essayer de questionner ce qui peut faire identité culturelle ou trait commun culturel en Europe. Et en fait, souvent, pour arriver à la conclusion que c'est pas si simple, voilà. Mais en tout cas, il y a des moments dans l'histoire où, et c'est ce que dit Emmanuel Loyer dans son livre, et par exemple, c'est le cas du 19e siècle, où le grand roman, cette époque du grand roman européen a existé. C'était l'époque aussi où les auteurs, en tout cas dans une certaine intelligentsia, étaient lus, connus. Enfin, on lisait des auteurs anglais, allemands, français, italiens. Voilà, parce que l'intelligentsia aussi était polyglotte. Voilà, donc il y a eu cette période, et sans doute que quand on cherche des modes d'incarner peut-être cette identité européenne, on peut s'arrêter à un moment sur le roman, en tout cas singulièrement à cette période. Et je trouve très intéressant qu'à travers le prix, vous essayez aussi de réactiver peut-être quelque chose de cet ordre-là.
Oui, tout à fait. Vous le dites très bien. Il y a absolument cette idée. Le roman comme forme est sans doute une des meilleures inventions des Européens, sans même qu'ils en aient forcément conscience, mais c'est quand même quelque chose qui, tel qu'on le pratique, a pris forme ici. Mais aussi, il y a quelque chose dans ce prix qui souhaite, en effet, réactiver quelque chose que je crois on a un peu perdu. Je pourrais vous poser la question, Pascal, de savoir si quelqu'un arrive dans votre librairie et vous demande à lire un roman européen. Il n'est pas impossible, en disant quel est le meilleur roman européen que vous auriez ici, ou quel est le roman le plus européen que vous recommanderiez. Et peut-être, enfin, alors, vous répondrez peut-être autre chose, mais je pense que si on pose cette question à certaines personnes, elles vous répondraient facilement. Personne n'aurait de mal à dire que Cervantes est un auteur européen, ou Virginia Woolf, ou Kafka. Mais alors, ça peut remonter assez loin, et ça s'arrête un peu il y a un siècle. Et aujourd'hui, on serait bien en peine de dire qu'un très bon roman qu'on a trouvé dans une librairie allemande ou française est un roman européen. On a du mal à voir le continent comme l'envergure, l'amplitude sensible d'une œuvre. Et l'idée de ce prix, encore une fois, ce n'est pas d'essentialiser les œuvres ni d'essentialiser l'Europe, mais d'accélérer un processus de diffusion des imaginaires, d'investir dans un livre pour lui donner un public européen et essayer que certains romans puissent être une tentative de devenir des récits qui circulent en Europe, qui parlent dans différents contextes, ce qui ne veut pas dire qu'ils leur parlent de la même manière. Alors qu'est-ce qu'on trouve chez Landru qui serait un bon roman européen ?
Alors il y en a beaucoup. Alors il y a beaucoup. Enfin, moi je recommande beaucoup les livres de Stefan Zweig, par exemple. Il y a aussi beaucoup plus contemporain et qui se passe aussi en montagne. On a un auteur italien, Cognetti, par exemple, qui a écrit un livre vraiment magnifique sur la montagne qui s'appelle Les Huit Montagnes. Donc ça, c'est on a beaucoup de connexions avec l'Italie, vraiment, et encore plus avec le livre de montagne. Après, au niveau de la littérature européenne, sans parler de montagne, bon, il y en a vraiment beaucoup d'autres, effectivement, mais il y a Sandor Mara, il y a des gens dont on parle moins, des auteurs dont on parle moins, et qui pourtant ont tellement marqué la littérature, je trouve, notamment dans les pays de l'Est.
Pour arriver à cette dimension vraiment transnationale, effectivement, on achoppe aussi sur la question de la langue, puisque effectivement, l'Europe, c'est quand même beaucoup de langues différentes. Et pour avoir une connaissance de toute cette littérature, il faudrait pouvoir circuler dans ces différentes langues. Donc ça nous renvoie aussi à cette idée que la langue de l'Europe, c'est la traduction, comme disait Umberto Eco. Moi, ce qui m'a frappée, parce que le prix littéraire européen décerné par Grand Continent est doté de la possibilité d'être traduit dans 5 langues, donc 5 langues européennes. Ce que je trouve intéressant, c'est que les 5 langues que vous avez énoncées, dans ces 5 langues, ne figurent pas l'anglais. Alors, on sait par ailleurs que c'est quand même une langue très puissante à tout point de vue, mais notamment dans le milieu éditorial, que c'est souvent un passage obligé pour après être traduit dans d'autres langues. C'est-à-dire une traduction réussie via l'anglais qui reçoit qui a une bonne réception peut déclencher des traductions dans d'autres langues. Donc, comment se fait-il que l'anglais, alors c'est vrai qu'on est dans l'Europe post-Brexit, mais que l'anglais ne soit pas considéré comme une des 5 langues européennes du prix Grand Continent?
Alors, d'abord, oui, on est dans l'Europe post-Brexit, mais l'Irlande est toujours européenne. Donc, il faut faire attention quand on dit que l'anglais n'est plus une langue en Europe. Cela dit, ce n'est pas une décision idéologique. On n'a pas prétendu punir les Anglais pour être sortis de l'Union européenne. Et on ne prétend pas que l'anglais ne soit plus une langue européenne. Enfin, il n'y a pas du tout de propos idéologique derrière ça. Évidemment que dans une bibliothèque européenne, quel que soit le sens qu'on donne à ça, idéal, il y a des livres britanniques et des livres russes, en fait. Mais le cas de la Russie est bien plus compliqué encore et tragique aujourd'hui, mais de la littérature russe, je veux dire. Donc... Voilà, c'est évident que c'est pas un propos idéologique, c'est-à-dire on exclut l'anglais, on exclut l'anglais de ce qu'on appelle Europe. C'est pas du tout ça. En revanche, il y a un constat que vous avez tout à fait énoncé dans votre question, qui est que la littérature anglophone aujourd'hui, c'est-à-dire britannique et américaine de façon très intégrée, et ainsi que en Inde, en Australie, dans une grande partie de l'Afrique anglophone, ça fonctionne extrêmement bien. C'est un marché très puissant, très solide, très autonome, et qui, par ailleurs, sert d'étalon, et c'est bien là, à mon avis, que le problème arrive pour nous, c'est très bien pour ce marché, mais qui sert d'étalon pour savoir ce que c'est qu'un bon livre pour certains Européens. Le constat qu'on a fait, en parlant souvent avec des éditeurs, c'est que pour qu'un livre polonais soit traduit en espagnol, sa seule chance de l'être, c'est que ce soit un succès de librairie en anglais. C'est-à-dire qu'il soit acheté par une maison américaine ou anglaise, qui fonctionne bien, que les chiffres soient bons et que l'éditeur espagnol s'y intéresse, qu'il le paye au passage beaucoup plus cher qu'il ne l'aurait acheté au départ. Et donc, c'est un fait, on ne va pas essayer d'aller contre ça, et ce n'est pas avec nos petits bras, même si on a le Mont Blanc avec nous, qu'on va arriver à changer ça, mais l'idée c'était de dire on pourrait œuvrer à court-circuiter ou aider un peu, à une très modeste échelle, parce que c'est un roman par an, à autonomiser un petit peu le marché européen, à dire voilà, si ce livre est traduit en anglais, si le livre qui gagne le prix Grand Continent cette année, au mois le 18 décembre, est traduit en anglais par la suite, tant mieux. Mais notre œuvre, ça consistera à le faire d'abord traduire, à faire que dans les 12 mois suivants, il soit en français, en polonais, en espagnol, en italien et en allemand, qu'il soit disponible dans les librairies de ces pays, et d'essayer, puisque c'est un prix qui part d'un constat lié vraiment au monde de l'édition, d'essayer que ce soit, et de pousser au maximum pour que ce soit un succès en plus. Pas simplement de dire on force sa traduction à la force du poignet parce qu'on la finance, mais bien parce qu'on croit à son succès. On croit à son succès dans un public différent, large, que ça puisse convaincre les éditeurs qu'il faut croire aux livres, aux littératures européennes au pluriel.
Il y a quand même un effort qui est fait, je trouve, au niveau de certaines maisons d'édition. Alors, je pense que ce sont des petites maisons d'édition. Il n'y a pas une grosse diffusion, certes, mais je pense par exemple aux éditions Do, qui, moi, j'ai découvert des tas de livres absolument magnifiques chez eux, des livres aussi. Je serais incapable de vous donner les noms des auteurs, j'en suis confuse, mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller voir. Et c'est des livres absolument magnifiques. On retrouve souvent cette écriture et cette manière de présenter des romans. Ce sont essentiellement des romans, mais traduits en français, extrêmement bien écrits et extrêmement bien traduits. Et maintenant, on a ça aussi avec d'autres maisons d'édition comme Agulo. Il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a quand même un effort de fait au niveau des maisons d'édition.
Alors, j'allais aussi citer les éditions Agulo. Et notamment, nous, un auteur qu'on a eu la chance d'accueillir qui s'appelle Arpad Soltest, qui avait écrit notamment alors ils éditent des polars européens, un livre qui s'appelle Il était une fois dans l'Est. Il se trouve que Arpad Soltest est non seulement auteur mais aussi journaliste. Donc, et puis on sait que le polar a une dimension documentaire très importante, donc il dépeint effectivement, il est slovaque, il dépeint notamment le monde de la corruption en politique, et il met à jour pas mal de magouilles, de mécanismes dont on n'a absolument pas connaissance. Et ça me renvoie à une réflexion qu'avait fait Raphaël Glucksmann récemment lors d'une intervention dans un de nos forums. Il citait la littérature européenne, aussi russe, parce qu'il y a des auteurs, autrices russes qui malheureusement, pour certaines, ont été assassinées d'ailleurs pour ce qu'ils ont écrit, en disant qu'il... Il dépeignait assez justement la réalité et parfois même avec une préscience assez, assez effrayante, et que nos diplomates seraient beaucoup plus, enfin feraient mieux de, plutôt que de lire des rapports, des notes, etc., seraient beaucoup mieux inspirés de lire en fait les romans, les polars, la littérature européenne. Ça fait peut-être le lien avec la dimension géopolitique de la revue Grand Continent. Est-ce que vous faites un lien justement entre géopolitique et littérature ?
Merci pour cette question, parce que c'est tout à fait vrai. Par ailleurs, je me souviens d'avoir eu la chance de rencontrer Arpad Soltest grâce à vous au European Lab que vous organisiez en 2021 à Lyon. Mais je veux dire. Et évidemment, je pense que ça a surpris d'ailleurs certaines personnes qui lisent qui connaissent Le Grand Continent d'abord comme une revue qu'ils associent à la géopolitique. Quand on leur a dit on fait de la littérature, ils se sont dit mais on fait un prix littéraire. Et les gens ne voient pas forcément le lien entre entre la dimension un peu technique, un peu science dure, on pourrait dire, alors que c'est loin d'être ça, de la géopolitique et la dimension artistique ou créative. Et alors qu'il me semble que c'est vraiment au cœur, pour le coup, de ce que l'équipe, le noyau qui anime Le Grand Continent pense depuis le début, c'est qu'on ne peut pas prétendre réfléchir à des échelles, puisque c'est ça que la géopolitique fait, c'est de poser le politique à différentes échelles, de questionner les échelles, de changer les focales en permanence pour voir comment les problèmes évoluent. On ne peut pas réfléchir à des échelles, en particulier à l'échelle du continent européen, sans poser la question des imaginaires. On ne peut pas... mettre de côté cette dimension-là. Je parle même pas de ce qu'on pourrait appeler les politiques culturelles, qui sont évidemment essentielles à l'Union européenne. Je parle vraiment de la circulation des imaginaires et de ce qui se passe, en effet, d'une sorte de préscience quand on regarde bien ces choses-là. Alors là, il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans... Disons qu'il y a une sorte de juste milieu à trouver. On peut évidemment se souvenir que Rimbaud disait que un poète, c'est un voyant, mais pour de vrai. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit des choses que les autres ne voient pas. Sans doute qu'un très bon peintre aussi, c'est un peu, les grands artistes sont peut-être des voyants. Mais avant de réactiver une vision tout de même peut-être un peu romantique de l'artiste, qui consiste à dire, il n'y a que eux qui savent, et puis on n'a qu'à foutre les rapports diplomatiques à la poubelle, ce qui serait quand même peut-être un peu dommage au passage, il faut essayer de trouver, à mon avis, là aussi, la bonne échelle pour lire la littérature. Il ne s'agit pas de dire, parce que Houellebecq a écrit son dernier livre, tout va se passer comme il l'a dit. Il y a un petit peu ce phénomène-là parfois dans l'édition française. Houellebecq publie Soumission, Charlie Hebdo, par pur hasard, arrive le même jour, et on se dit, ça y est, Houellebecq, c'est le voyant, c'est celui qui sait les choses. C'est pas, je pense pas que ce soit ça.
Ça s'est produit aussi avec son dernier livre, Anéantir, et qui dépeint aussi la situation des EHPAD, et le scandale d'Orpea sort exactement au même moment.
Vous avez tout à fait raison. Non, mais par ailleurs, il est certain qu'il touche à des choses qui parlent à toute la société. Enfin, je veux dire, il fait pas de doute que ses romans sont des, c'est d'ailleurs leur succès. Parle très profondément, irrigue très profondément des questionnements de toute la société française. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'idée que un voyant, ça ne veut pas dire un diseur d'avenir. Et là aussi, et c'est là qu'on rejoint le travail du Grand Continent en général, il y a une question d'échelle. Il y a une question de comprendre la pertinence de la littérature à la bonne échelle. De dire que c'est essentiel pour la vie des Européens. On ne va pas réussir à faire l'Europe sans ça. On ne pourra pas... On ne peut pas croire qu'on va vivre harmonieusement et affiner la manière dont on veut vivre sans confronter nos imaginaires, sans se rendre compte ce qu'ils ont de commun, ce qu'ils ont de différent aussi. Mais il y a une question d'échelle. Il y a une question de trouver la bonne place aussi qu'on assigne à cette chose étrange que les humains pratiquent depuis très longtemps qu'on appelle la littérature.
Enfin, moi, je pense quand même que si les politiques et les diplomates lisent davantage de littérature, c'est pas mal. Mais ils peuvent lire et des rapports et de la littérature, ce serait bien.
Oui, moi, je veux juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Mathieu, que je trouvais effectivement extrêmement intéressant. Je ne crois pas non plus que Houellebecq soit visionnaire. Je ne l'ai jamais pensé. En revanche, je trouve de plus en plus de jeunes qui viennent en librairie et qui vont me demander... Ça s'est encore passé tout à l'heure. Je voudrais du roman noir. Oui. Alors qu'auparavant, c'était peut-être autre chose. Et pourquoi du roman noir ? Ben parce que je comprends mieux la géopolitique. Parce que je vais pouvoir, avec l'intrigue... comprendre, parce que sinon ça m'agace les journaux. Et je me rends compte que c'est aussi ça en fait la littérature. C'est que c'est une porte ouverte sur tout, sur l'imaginaire, sur la compréhension du monde, de la société. C'est ce qui fait rêver, c'est ce qui fait pleurer, c'est la vie quoi.
Après, il y a une autre dimension que nous, on a aussi abordée dans nos forums, puisque je crois que la dernière année où vous êtes venu aussi, la thématique du forum, c'était la bataille des récits, voilà, qui se livrent aussi à l'échelle européenne, enfin internationale d'ailleurs. Et effectivement, faire entendre des récits, voilà, qui, alors c'est peut-être une bataille aussi peut-être idéologique, mais on a besoin en fait de récits qui incarnent, qui rendent sensibles en fait aussi peut-être parfois des sujets complexes contre les discours simplificateurs, les discours réducteurs, etc.
Oui, quand on, l'expression grand récit européen qu'on emploie. Et que j'ai essayé, voilà, dont j'ai essayé d'expliquer le sens qu'on lui donne exactement avec cette idée de trouver, d'offrir un public européen un récit chaque année. Il faut pas la prendre comme l'idée que grâce à la littérature on devrait imposer un seul récit aux Européens. Bien sûr que non. Mais en effet, comme vous le dites, il y a un enjeu politique à la littérature. Il y a un enjeu qui est de l'ordre de ce qu'on finit par penser à ce qui se fait jour entre ce qu'on ressent, entre un mélange d'idéologie, de sensible, de langage, puisque le langage qu'on formate énormément de ce qu'on va finir par exprimer et donc par penser, par faire penser aux personnes à qui on s'adresse. Enfin, voilà, c'est tout ça qui se joue dans la littérature. Et il est certain que, me semble-t-il, les premières personnes dans les dernières années, dans les années post-Maastricht, disons, dans les années où l'Union européenne s'est construite comme une institution politique de plus en plus large, une certaine partie du camp européiste a eu peur de reparler de récits, d'imposer l'idée qu'on pouvait avoir des imaginaires communs. Tout ce vocabulaire-là faisait un peu peur parce qu'il avait aussi été manipulé par les totalitarismes au XXe siècle. Et quelque part, ceux qui s'en sont emparés le plus vite, c'est des personnes qu'on a longtemps cru être europhobes ou eurosceptiques, mais qui ont tout à fait un agenda européen. C'est ce qu'on peut appeler les nationalistes populistes. Quelqu'un comme Viktor Orban, pour reprendre l'exemple de la Hongrie, puisque vous en parliez avant, c'est quelqu'un qui propose un récit de l'Europe aux personnes qui veulent l'écouter, qui propose le récit d'une Europe chrétienne, blanche, mais qui dit, voilà, je vous raconte l'Europe, je vous la raconte, et puis si vous vous identifiez à ce récit, bah, vous allez commencer à en exclure une autre et à vous identifier. Et donc, quelque part, promouvoir d'autres imaginaires, faire comprendre aussi, comme vous disiez, de la finesse, de la complexité, qui sont toutes les choses dont la littérature a quand même le privilège, normalement, c'est aussi ne pas oublier qu'il y a un enjeu politique derrière tout ça, oui, bien sûr.
Alors, est-ce qu'on peut rentrer déjà dans des exemples, et notamment dans la sélection, parce que vous êtes déjà dans la phase de présélection, donc je crois que vous avez identifié 15 titres qui vont concourir au prix littéraire européen. Moi, je ne connaissais que Pierre Ducrozet dans l'eau, donc qui pour son dernier livre « Variation de Paul », mais il avait écrit précédemment « Le Grand Vertige », qui est un très beau roman. Est-ce que vous pouvez nous présenter comme ça
ce qu'on peut faire, c'est
quelques ouvrages,
rentrer un peu dans l'atelier de ce qui a mené à cette sélection. Donc, on a le prix Grand Continent va être remis le 18 décembre. Et là, on est entre deux moments de sélection. Un premier qui a identifié 15 livres, donc 3 par langue, sur ces 5 langues, qui a été publié il y a une semaine. Et le 8 novembre sera publié une shortlist avec vraiment 5 titres seulement, un par langue. C'est sur ces 5 derniers finalistes que le jury statuera le 17 décembre avec cette remise du prix le 18 ici sur le Mont-Blanc. Vous pouvez par ailleurs retrouver toutes ces listes donc sur le site 3466.eu qui est donc à la fois l'altitude où se situe le prix mais son site internet aussi. Alors donc cette liste de romans, elle est forcément déroutante. Quand on voit 15 romans, en plus on a volontairement classé cette liste par ordre alphabétique des auteurs, donc on ne sait même plus très bien dans quelle langue il s'agit. Enfin, quand on est français, on reconnaît que le polonais, c'est pas... Enfin, y a des langues qu'on repère plus vite que d'autres, j'allais dire, il y en a qui nous étonnent plus que d'autres, mais quand même, il y a certains titres qui parfois fonctionnent dans plusieurs langues. Donc il y a aussi cet effet un tout petit peu de défamiliarisation. Mais cette liste, elle est forcément déroutante parce qu'on on n'y reconnaît que très peu de titres, parce qu'on connaît mal, et c'est pas grave, c'est comme ça, on connaît mal la littérature ultra-contemporaine de nos voisins. On connaît parfois les livres qui sont parus il y a 4-5 ans, parce qu'ils ont eu le temps d'être traduits, mais les livres qui sont parus il y a 3 mois en Espagne ou en Allemagne, c'est rare qu'on les connaisse. Donc voilà, cette liste a aussi vocation à dérouter un peu, et par ailleurs, le travail du Grand Continent comme revue a aussi été de documenter chacun de ces livres, donc vous pouvez également, sur le site de notre revue, retrouver des comptes rendus, des explications sur chacun de ces livres, des lectures de ces 15 ouvrages. Je pense que ce qui est le plus intéressant, stimulant, quand justement on parcourt ces livres grâce à ces comptes rendus, c'est de se rendre compte d'un mélange de diversité, de grande diversité, qui est rafraîchissante. C'est-à-dire que quand on dit... Disons que les 2-3 jugements qu'on aurait facilement sur la littérature française aujourd'hui sont assez vite battus en brèche quand on se rend compte de ce qui se publie ailleurs. Et c'est assez, ça fait du bien. Souvent, quand j'entends des personnes me dire voilà, « je suis déçu par la littérature aujourd'hui en France » ou « je trouve que c'est comme ci ou comme ça », je dis « mais allez voir juste traverser les Pyrénées ou les Alpes, vous verrez que c'est pas... » En fait, c'est pas... Aujourd'hui, la littérature contemporaine ne ressemble pas à la littérature française. Donc, il y a cette grande diversité, diversité de thèmes, diversité de manières d'approcher ces thèmes. Et puis, en même temps, on repère, et ça, c'est quelque part aussi ce qui fait le... Je ne vais pas dire que c'est rassurant, mais je vais dire que c'est aussi ce qui conforte l'idée que l'espace imaginaire de l'Europe n'est pas si grand et qu'on partage beaucoup de choses. Il y a aussi des très grandes communautés de ton entre des livres qui s'ignorent vraiment, qui ne savent pas que, voilà, sans doute, leurs auteurs ne se sont pas lus réciproquement, ils sont parus en même temps, et on voit des grandes proximités. Des réflexions sur, notamment, par exemple, sur la vieillesse et la solitude, à la fois dans le dernier roman de Claudie Hunsinger en France, qui s'appelle Un chien à ma table, et un roman... espagnol qu'on pourrait traduire le titre par le fleuve de cendres. Voilà, ces deux livres se trouvent être dans la sélection, réfléchissent très différemment, mais à des questionnements sur la solitude, sur la vieillesse, qui sont par ailleurs, enfin on pourrait si on mettait des lunettes de prof et pas simplement de lecteur, on pourrait dire que la vieillesse c'est sans doute un phénomène plus propre à l'Europe qu'aux autres zones du monde, parce que on est plutôt plus riche et on vit plutôt plus vieux. Donc c'est une question qui se pose différemment en Europe qu'elle ne se pose en Afrique, en Amérique ou en Asie. Un autre exemple, le livre d'un auteur polonais qui s'appelle Mateusz Pakula, qui pourrait contenir pas mal de similitudes avec le dernier livre de Michel Houellebecq dont vous parliez, puisqu'il est lui aussi une réflexion sur la fin de vie. Alors si je vous traduis son titre, ça va vous faire un peu frémir, parce qu'en français, c'est pourquoi comment je n'ai pas tué mon père et pourquoi je le regrette. Mais donc ça paraît un peu sinistre comme ça, ça l'est en effet, mais c'est plein d'humour aussi. C'est aussi un livre qui est plein d'humour, plein de finesse, à la fois... Alors, je ne lis pas le polonais, malheureusement, donc j'ai lu beaucoup de choses sur ce texte, mais je ne l'ai pas lu. Mais qui me semble, de ce que je comprends, différente, voilà, très différente de celui d'Anéantir de Houellebecq, mais en même temps, qui croise des thèmes qui, d'une part, existent dans la littérature française, on l'a bien vu, et puis qui existent dans la société française aussi. Donc, et en même temps, l'état des questionnements, par exemple, sur l'euthanasie en Pologne, ne sont pas du tout les mêmes qu'ici. Donc, je pense que c'est ces espèces de jeux de défamiliarisation et de familiarité surprenante, hasardeuse, joyeuse, qui sont sans doute la plus grande satisfaction quand on parcourt cette sélection.
J'aimerais juste vous poser une question. Cette liste, justement, cette sélection, vous la faites comment ?
Alors, merci de me poser cette question. C'est quand même important de le préciser. C'est pas, ça sort pas de notre chapeau. Le travail de la, en fait, c'est pour ça que le prix s'appelle Grand Continent et que c'est la revue qui fournit le travail nécessaire à ça. On fonctionne tout au long de l'année avec un système de correspondants dans chacune de ces langues. Donc, par langue, il y a 2 à 4 personnes qui lisent des livres, qui lisent tout ce qui, beaucoup de choses qui sortent et que l'on voit individuellement, je dis on parce qu'on est une petite équipe à échanger avec ces correspondants qui sont des gens qui sont, si vous voulez, il y a un peu trois types de profils, des universitaires, des critiques journalistes et des traducteurs. Traducteurs, traductrices, c'est des équipes paritaires plutôt majeures. Plutôt plus féminine que masculine. Donc chaque mois, on les voit par Zoom, parce que c'est l'Europe, ça reste quand même un peu grand. Donc on se voit en visio et chacun amène sur la table les livres qui lui semblent les plus pertinents et on essaye de publier deux comptes rendus. Il y a un premier écrémage, si vous voulez, sur les 5 ou 6 textes qui vont être discutés chaque mois dans chaque langue. On publie 2 comptes rendus, donc on les confie aux personnes qui les ont amenés, on les rémunère et on les publie sur le site de la revue. Donc ça fait tout au long de l'année, ce qui est une différence assez grande en fait avec certains autres prix, c'est-à-dire que on se met pas à découvrir une sélection juste à un moment. Là, on découvre une shortlist, mais si on lit le Grand Continent toute l'année, on lit sur la littérature européenne tout au long de l'année. Donc voilà, ça c'est un travail qui se fait toute l'année. Et puis ensuite, au mois de septembre, puisque ce sont des livres qui sont parus entre octobre 21 et septembre 22 pour cette année, au mois de septembre, il y a un travail de discussion et de rétrécissement de la liste qui donne cette shortlist de 3 titres par langue. Et puis encore, et alors là c'est vraiment un débat qui mélange les contributeurs de chacune des langues, mais aussi ceux des autres langues, mais aussi l'équipe de la revue, du prix, et on fait un dialogue déjà avec le jury à cette occasion. Ensuite, il y a un candidat dans chacune de ces langues. Et là, se pose évidemment une question qui est qu'il faut qu'on soumette à notre jury, qui est un jury plurilingue, qui travaille en français, donc c'est une condition pour faire partie de ce jury, c'est de parler le français, mais s'il y a des personnes qui sont... Alberto Manguel, c'est un écrivain argentin, donc il y a aussi des gens qui ne sont pas européens par ailleurs. Achille Bembe aussi fait partie de ce jury, n'est pas européen. Agata Tuschinska, une autrice polonaise, mais il y a aussi Barbara Cassin en France. Enfin voilà, il y a Giuliano D'Empoli aussi qui est maintenant un auteur connu chez Gallimard. Donc c'est une variété de gens qui délibèrent en français, et donc pour les faire délibérer en français, il faut qu'on traduise les 5 livres, les finalistes. Une partie de ces textes en français. Donc, pour chacun de ces textes, il y a un dossier critique qui est monté par l'équipe de correspondants, donc un dossier d'une 20aine de pages qui dit pourquoi c'est le meilleur livre de l'année, en gros, parce que s'il y a quand même cette idée de défense. Et on fait également faire par des traducteurs littéraires, recrutés par un appel public, des traductions d'une trentaine de pages de chacun de ces livres. Et alors, peut-être que ça peut surprendre certaines personnes de se dire « Mais comment on peut élire un livre sans l'avoir vraiment lu ?» C'est une vraie question, ça fait partie de l'enjeu de tout ce prix. Mais d'une part, le jury parle suffisamment de langue pour que tout le monde lise certains des livres, il ne les lise pas tous les 5. Et d'autre part, c'est quelque chose qui est en fait une réalité très concrète du monde de l'édition. Ça surprend certaines personnes qui en parlent, mais ça ne surprend jamais les éditeurs, puisque n'importe quel livre de littérature étrangère, alors il y a des éditeurs qui vont lire une langue, 2 langues, 3 langues, 4 langues, mais il y a toujours une langue qu'on finit par publier qu'on ne parle pas. Donc la littérature étrangère a pour coutume aussi de déléguer la lecture à quelqu'un de confiance qui garantit la qualité d'un livre, qui en parle, qui en traduit des extraits, qui montre ce que ça peut donner. Puis il y a un moment, il faut sauter dans le vide. Et il y a un pari. Donc voilà, c'est ça, la séquence de sélection.
Merci.
Alors, on arrive au bout de ce temps de discussion. Je voulais peut-être, pour terminer, que chacun d'entre vous partage peut-être un coup de cœur ou des coups de cœur. Alors, Mathieu, moi, j'aurais peut-être aimé que vous parliez du lauréat de l'année dernière, peut-être, puisque c'était une édition un peu spéciale. Et puis, c'est un titre qui a été remis à titre posthume. Peut-être quelques mots sur cet auteur.
Oui, alors.
Et ce qui a fait que vous l'avez considéré comme un auteur européen.
Alors, l'an dernier, il y a eu une première édition du prix, mais qui est vraiment qu'on pourrait appeler une édition zéro. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire ce processus de sélection de livres de littérature très contemporaine et de financement de la traduction, il a commencé cette année. Il aura lieu vraiment cette année. L'an dernier, on a simplement inauguré notre partenariat avec le Mont Blanc, j'allais dire, avec Skyway, avec ce lieu, construit aussi les équipes du prix, des premiers contacts avec des personnes du jury. Voilà, beaucoup de choses étaient à mettre en place et il était important de le sédimenter dans un événement. Donc il y a eu un premier prix en décembre dernier, mais il a cette fonction un peu de lancement. Et pour ça, nous avons choisi de remettre tout de même un prix, de nommer tout de même quelqu'un. Mais comme on n'avait pas encore cette possibilité de trouver un roman très contemporain et de le diffuser, on a choisi au contraire de se mettre un peu sous la tutelle d'une figure d'écrivain qui pouvait incarner bien la complexité de tout ce projet, enfin tout ce dont on parle, j'allais dire, depuis une heure. Et il y avait différentes idées, mais celle qui a emporté l'adhésion, c'est de choisir quelqu'un qui était un grand écrivain et un grand éditeur aussi en Italie, et qui était Roberto Calasso, qui a été le fondateur de la maison d'édition Adelphi, dont vous pouvez trouver des livres traduits chez Gallimard sur le stand de Pascal juste à la sortie, qui est vraiment quelqu'un qui a été l'âme, ce que ça veut dire d'être un lecteur, un écrivain et un éditeur européen entre le XXe et le XXIe siècle, ça correspond assez bien à cette personne. C'est quelqu'un qui a lui-même traduit des textes importants de la littérature européenne, mais même ancienne. Il a traduit Nietzsche en italien notamment. Voilà, il traduit de l'allemand, du français, de l'espagnol et du portugais. Enfin, c'est quelqu'un qui parlait énormément de langues, qui a incité à ce que Adelphi publie beaucoup de traductions, mais qui a aussi incité à ce que, à ce que sa maison d'édition rayonne et soit elle-même traduite dans d'autres pays. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de liens éditoriaux avec le Mexique. Enfin. Et c'était par ailleurs lui-même un excellent écrivain qui écrit des livres très variés qui peuvent aller d'une relecture de certains mythes antiques qui s'appelle Les Noces de Cadmos et Harmonie jusqu'à un magnifique livre sur Baudelaire qui s'appelle La Folie Baudelaire. Et c'est aussi quelqu'un qui, donc, dans sa manière d'écrire, revisite quelque part les mythes de l'Europe, ou en tout cas des mythes qui sont constitutifs de beaucoup de courants, d'héritages culturels en Europe. Donc voilà, ça nous semblait à tous ces égards une figure, un carrefour fascinant et une bonne figure tutélaire pour démarrer réellement cette année.
Et Pascal, si vous deviez... Alors peut-être dire aussi, j'aimerais moi en savoir un peu plus sur la librairie Londru et son histoire. Enfin voilà, elle est presque centenaire.
Alors oui, la librairie a 93 ans. C'est toujours la même famille, la famille Londru, dont je ne fais pas partie. c'est au départ, la famille Londru est arrivée, ils étaient plutôt éditeurs. Pour les Chamoniards, ça représente surtout deux livres d'enfants qui avaient été écrits par dessinés par Pélos, et écrits par Philippe Gossot et édités par Monsieur Jean Landru. C'était Hopi la marmotte et Youpi le chamois. Ces livres sont épuisés et on nous en demande tous les jours, hein, quasiment. Voilà, et la librairie a changé d'endroit à un moment donné. Mais voilà, elle est toujours là et on espère rester encore un petit moment. c'est une librairie dans laquelle je me sens très très bien et que j'aime beaucoup. Ça fait déjà quelques années que j'y suis, que j'y travaille. Et pour en revenir à nos coups de cœur, à mon coup de cœur, je vais être plutôt rapide, mais je vais choisir un titre de la rentrée littéraire, un titre qui m'a beaucoup plu, j'en ai déjà parlé. Ça s'appelle « L'île haute » de Valentine Gobi aux éditions Actes Sud. Et pourquoi ce livre ? Parce qu'il se passe dans la vallée, à Valorcine. C'est l'histoire d'un petit garçon pendant la guerre de 40 qui est obligé de partir et donc d'arriver en montagne, qu'il ne connaît pas du tout. C'est un environnement totalement inconnu. Il arrive par le train, il y a une avalanche, il découvre la neige, la montagne, l'hiver, le froid, la ferme, les vaches. Et c'est écrit avec une écriture magnifique. C'est un véritable émerveillement. Et bien sûr, en toile de fond, quand même, cette guerre de 40 et pourquoi il est là. Donc là, je ne vous en dirai pas plus parce que c'est effectivement un livre à lire et à découvrir. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était... je me suis dit, allez, encore un petit coup de cœur pour l'île haute.
Merci beaucoup. Donc je précise aussi, je rappelle que la librairie Londru est partenaire du festival Casse-Croûte et c'est une brique de la programmation puisque Pascal Farge présente une sélection d'ouvrages, alors aussi bien sur la montagne que sur la cuisine, tous les sujets que nous abordons dans le cadre du festival, qu'on peut du coup évidemment aller à la librairie, ça c'est le meilleur moyen, mais aussi retrouver cette sélection d'ouvrages à l'EMC2 et ici même sur les temps de débat. Donc merci beaucoup d'avoir jouer le jeu du festival et partager cette sélection d'ouvrages. Merci beaucoup à Mathieu Roger Lacan. On va suivre attentivement la suite, la prochaine shortlist pour le 8 novembre et le lauréat ou la lauréate. On peut suivre ça en ligne sur le site toujours.
On pourra suivre ça, oui, sur le site, sur Twitter, sur Facebook, ça se trouve. Le Grand Continent aussi, comme site, enfin comme revue en ligne, se fera l'écho de tout ça. Donc ça pourrait être suivi. Et puis c'est pas loin pour les personnes qui sont dans la région. Voilà, la librairie Landru s'en fera aussi. La librairie Landru s'en fera sans doute l'écho aussi.
Absolument.
Merci beaucoup. Merci à la Maison des Artistes qui nous accueille. Merci à Globule Radio. Qui aussi participe activement à toute cette partie débat d'idées dans ce qui est non plus un goûter d'écoute, mais bel et bien maintenant un apéro d'idées. Voilà, on y est, là, c'est l'heure de l'apéro. Merci, et puis on vous retrouve demain à 16h pour un nouveau temps de débat autour plutôt avec des chefs et des producteurs locaux, et puis aussi les auteurs d'un podcast. Une enquête à la recherche d'un fromage disparu, le fromage de la vallée d'Abondance. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à très vite.
Merci.